Vous préparez vos arguments depuis des semaines parce que vous avez ce besoin de convaincre quelqu'un qui ne va pas trancher comme vous l'imaginez. Il est 22 heures, vous êtes sur votre table de cuisine. Il y a une énorme pochette cartonnée et puis à l'intérieur, des captures d'écran imprimées, des relevés bancaires annotés, des attestations, beaucoup d'attestations. Une liste de dates soulignées au stylo rouge. Vous avez relu 100 fois, 200 fois. Vous avez mémorisé ce que vous alliez dire. Vous avez répété à voix basse. Peut-être avez-vous mimé devant la glace de votre salle de bain, comme on prépare un examen. Demain, vous entrerez dans un palais de justice, probablement pour la première fois, parce qu'aucun accord n'a pu être trouvé, parce que votre ex a empêché tout accord possible, et parce qu'il a fallu en arriver là. À un moment de cette matinée, vous vous retrouverez à quelques mètres de votre ex, avec qui vous avez partagé une vie. Peut-être que ce sera la première fois que vous serez dans la même pièce depuis des mois, sans pouvoir vous adresser la parole. Chacun entouré de votre avocat, chacun armé de votre dossier. 20 minutes plus tard, vous ressortirez et vous aurez le sentiment très étrange que ce que vous venez de dire, personne ne l'a vraiment entendu. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce moment. Pas pour vous faire un cours de droit, ça n'est pas mon métier, mais pour vous dire quelque chose que personne ne vous dira avec ces mots-là, avec des mots simples. Vous êtes en train de préparer le mauvais combat. Et cette préparation, qui vous semble vous protéger, est en train de vous coûter beaucoup plus cher que ce que vous ne l'imaginez. Avant d'entrer dans le sujet, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement. Je suis Sandrine Mercier, coach divorce certifiée CDC, première coach divorce certifiée en Europe francophone, autrice de deux ouvrages de référence sur le divorce et la parentalité. Je suis conférencière et fondatrice des journées du divorce et de la séparation, un cycle de webinaires de 2 jours gratuits pour surmonter votre divorce. Depuis plus de 10 ans maintenant, j'accompagne des hommes et des femmes qui traversent une séparation. Des personnes habituées à prendre des décisions, à gérer et à tenir, et qui se retrouvent à un moment de leur vie face à une situation qu'aucune de leurs compétences ne leur a préparée à affronter. Je ne suis ni avocate ni thérapeute, mon métier est ailleurs. Mais je souhaite ici devenir votre voix inspirante et compatissante pour transformer l'épreuve de votre divorce, de votre séparation, en un passage dont vous ressortirez debout, lucide et capable de décider à nouveau pour vous-même. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous portez probablement 3 peurs très précises en ce moment. Pas une seule, 3. Elles ne se manifestent pas toujours en même temps, mais elles sont toutes là, en arrière-plan, et elles organisent silencieusement vos journées et vos nuits. La première peur, et c'est la plus puissante, c'est la peur de perdre. Elle prend toute la place, elle organise tout. Vous avez peur de perdre la garde de vos enfants. Vous avez peur de perdre du temps avec eux. Vous avez peur de perdre la maison, de perdre une part de ce qui était à vous deux, mais que vous ne serez plus reconstitué. Vous avez peur de perdre des années de cotisation pour une prestation compensatoire mal négociée, de perdre simplement sur le terrain où vous croyez devoir gagner. Cette peur, elle ne se montre pas comme une peur. Elle se déguise en stratégie. Elle vous pousse à rassembler, à documenter, à préparer. Puis cette peur, elle vous tient debout et elle vous épuise en même temps. Mais sous cette peur de perdre, il y en a une autre, plus profonde, dont on parle rarement d'ailleurs. Vous avez peur de perdre parce qu'au fond, vous attendez quelque chose de cette audience. Vous attendez que la justice vous répare, qu'elle répare ce qui a été cassé en vous, qu'elle vous reconnaisse. Qu'elle vous reconnaisse pour tout ce que vous avez subi, qu'elle dise enfin qui avait raison, qu'elle compense ce que la vie ne vous a pas rendu, qu'elle remette à sa place ce qui a été pris, qu'elle équilibre enfin ce qui ne l'a jamais été. Et c'est là, dans cette attente, que vous portez sans vous l'avouer, que se cache la racine de votre peur. Vous n'avez pas peur de perdre des points juridiques. Vous avez peur que la réparation que vous attendez tant n'arrive pas. Tenez bien cette phrase, parce qu'elle est la clé de tout l'épisode et j'y reviendrai. Vous avez peur que la réparation que vous attendez n'arrive jamais. La deuxième peur, quand on rentre dans un tribunal, c'est la peur de revoir l'autre. Ce n'est pas une peur que vous formulez à voix haute, c'est une peur que vous portez dans le ventre depuis des semaines, depuis que vous avez reçu cette convocation. Cette personne avec qui vous avez vécu, avec qui vous avez peut-être eu des enfants, avec qui vous avez partagé une intimité, vous allez la retrouver dans un lieu public sous le regard de votre avocat, du sien et de nombreux inconnus. Et puis vous ignorez, vous ne savez vraiment pas comment vous allez vous tenir. Vous ne savez pas si vous allez le ou la regarder. Vous ne savez pas ce que vous allez ressentir. Ou vous imaginez ce que vous allez ressentir. La perspective de ce moment précis, parfois, est plus facile à porter que l'audience elle-même. Puis, il y a la troisième peur, celle de l'épreuve, de l'entrée dans un tribunal. Pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois. Et ce qui se déclenche en vous est presque irrationnel. Le sentiment d'être convoqué comme si vous aviez commis une faute. Le sentiment de devoir vous justifier. Le sentiment d'être jugé au sens moral du terme et pas au sens juridique. Puis à cela va s'ajouter tout l'imaginaire que nous avons accumulé autour de cette audience. Les films, les séries, les images d'audience spectaculaires à la télévision ou sur les réseaux sociaux, où la vérité éclate, où une voix tranche, où une décision tombe comme un verdict. Vous portez cet imaginaire en entrant et vous portez avec lui une peur que personne ne vous a aidé à nommer. La peur de ne pas être à la hauteur d'une scène que vous avez déjà jouée 1000 fois dans votre tête. Le problème, c'est ce qu'elles vous font faire pendant des mois qui précèdent l'audience. Et c'est de cela que je voudrais vous parler maintenant. Voilà ce que ces trois peurs vous font faire, sans que vous en ayez pleinement conscience. Pendant des mois, parfois presque des années, selon la charge du tribunal dont vous dépendez, vous construisez un dossier. Pas un dossier juridique au sens administratif, un dossier émotionnel. Vous y mettez tout ce que vous avez vécu. Les messages blessants reçus à des heures impossibles. Les attestations de votre mère, de votre famille, de votre meilleur ami, du voisin qui a entendu une scène. Les photos prises en cachette ou par un détective privé, les captures d'écran de conversation, les notes manuscrites sur ce qui s'est passé tel jour, tel mois. Vous écrivez parfois des dizaines de pages de récits pour votre avocat, qui vous demande de raccourcir, et puis qui au final les raccourcit lui-même. Ce qui vous déçoit, et ce qui vous fait dire qu'il n'a pas compris votre situation. Vous faites cela pour gagner, vous faites cela parce que vous avez peur de perdre. Vous faites cela parce que vous croyez que dans cette pièce, demain, le juge va lire ce qui s'est passé, comprendre qui vous étiez dans cette histoire, reconnaître ce qui vous a été fait et trancher en conséquence. Faites cela en réalité parce que vous attendez de cette audience qu'elle vous répare. Et c'est exactement là que se joue le mauvais combat. Est-ce que le juge aux affaires familiales, et c'est une réalité que peu de gens vous expliqueront aussi simplement, ne tranche pas une histoire. Il va trancher des chiffres, il va trancher des situations, il va trancher un cadre pour pouvoir en poser un pour l'avenir. Il va regarder combien vous gagnez, combien gagne l'autre, quels sont les revenus du foyer, où dormiront les enfants la semaine, le week-end, pendant les vacances, comment se répartira votre patrimoine, quel logement reste à qui, quelle pension est versée, à qui. Pour combien de temps? Voilà ce qui se décide réellement dans cette pièce. Le juge ne tranche pas qui a aimé en premier. Il ne tranche pas qui a cessé d'aimer en premier. Il ne tranche pas qui a menti, qui a trahi, qui a abandonné l'autre dans les épreuves. Il ne tranche pas non plus la qualité de votre engagement, ni l'humanité de votre conjoint. Il ne tranche pas la vérité de votre histoire. Aussi douloureux que cela soit à entendre, ça n'est pas son métier. Et puis surtout, il n'est pas là pour vous réparer. Et je précise ici, parce que c'est essentiel, Ce que je vous dis ne s'applique pas à toutes les situations. Si vous êtes dans un divorce où il y a des violences physiques, psychologiques, économiques, ou si vous êtes dans un divorce pour faute, alors les preuves matérielles que vous avez rassemblées peuvent peser et elles doivent être pilotées par un avocat expérimenté. Ce que je vais dire maintenant ne vous concerne pas de la même manière. Pour les autres situations, ils sont la grande majorité continuants. Donc vous avez passé des mois à préparer un dossier qui répond à une attente, être reconnu, être réparé, quand le juge, lui, va répondre à une autre question. Comment organiser concrètement ce qui suit? Vous avez investi votre énergie à démontrer qui avait raison, quand il vous fallait simplement démontrer ce que vous gagnez, ce que vous payez, ce que coûtaient les enfants et comment vous vouliez que les choses se passent par la suite. C'est la première dimension du mauvais combat. Vous vous êtes préparé pour une scène morale et vous allez vivre une scène administrative. Mais il y a pire. Et c'est là que je voudrais que vous m'écoutiez attentivement, parce que c'est le point qui change la suite de votre vie et pas seulement la suite de votre procédure. Pendant ces mois passés à construire votre dossier, vous avez fait quelque chose dont personne ne vous a parlé. Vous avez relu encore et encore les messages qui vous ont blessé. Vous avez ressorti encore et encore des scènes qui vous ont marqué. Vous avez réécouté dans votre tête encore et encore ce qui s'est dit ce soir-là, ce week-end-là, ce jour-là. Et à chaque fois que vous l'avez fait, bien sûr, pour préparer votre dossier, pour vous justifier auprès de votre avocat, pour expliquer à votre mère ou à votre meilleur ami ce qui s'est passé, chaque fois, votre cerveau a réactivé le circuit de cette douleur. Et puis, il a fait une chose, votre cerveau. Il l'a consolidé, cette douleur. Ça n'est pas une métaphore. C'est vraiment un mécanisme neurologique précis. Chaque fois que vous racontez une scène douloureuse, votre cerveau ne la classe pas comme une archive. Il la rejoue. Il réactive l'émotion. Il réactive les sensations physiques. Il réactive l'affolement initial. Et ce qui a été un souvenir se transforme en une trace de plus en plus profonde. Vous ne vous éloignez pas de ce qui a blessé en le préparant pour le tribunal. Vous vous y enfoncez. Et c'est pour cela que vous êtes aussi fatigué aujourd'hui. C'est pour cela que vous vous réveillez à 3 heures du matin. C'est pour cela que vous avez l'impression de revivre des scènes en boucle, alors qu'il ne se passe rien de dramatique cette semaine. Votre cerveau, lui, est en plein milieu de cette scène. Toutes les semaines, tous les jours, parce que vous l'avez nourri sans le savoir, en vous préparant à ce combat. Voilà la double dimension du mauvais combat. Vous vous épuisez pour un auditeur qui ne va pas vous réparer et vous gravez en vous, à mesure que vous vous préparez exactement ce dont vous voulez vous libérer. Maintenant que ce mécanisme est posé, j'aimerais vous proposer une autre lecture, une autre manière d'habiter ces mois d'attente. Pas pour remplacer votre avocat, il est là pour la stratégie juridique et c'est son métier. Pour vous parler, moi, de ce que personne ne fait avec vous, pour préparer ce qui ne relève pas du dossier et qui va faire une différence. Parce qu'il y a en réalité deux préparations à mener en parallèle de la procédure. Deux préparations très différentes l'une de l'autre, qui n'occupent pas le même espace dans votre vie et qui n'ont pas le même horizon. La plupart des personnes que je reçois ne préparent que la première et encore, c'est mal. La deuxième, elle n'y pense pas. Et c'est pourtant celle qui va tout changer. Je ne parle pas ici de la stratégie juridique. C'est le travail de votre avocat. Je parle de vous, de votre corps, de votre voix, de votre regard, de votre capacité à tenir debout dans un couloir et dans une salle d'audience pendant les minutes qui décideront en partie de la suite de votre vie. Ce travail-là, on ne vous l'apprend nulle part. Vous arrivez devant le palais sans l'avoir fait. Et c'est précisément pour cela que beaucoup de personnes sortent de l'audience avec ce sentiment de n'avoir pas été présente, d'avoir flotté, d'avoir parlé sans s'entendre, d'avoir oublié de dire ce qui comptait. Ce n'est pas un manque de préparation juridique, c'est un manque de préparation incarnée. Concrètement, en consultation, c'est exactement ce que nous faisons ensemble. Nous travaillons par visualisation. Nous construisons mentalement la scène dans le détail. Le moment où vous entrerez dans ce tribunal, le moment où vous voyez l'autre, où vous décidez à l'avance, comment vous allez vous tenir, la manière dont vous respirez avant d'entrer, la posture que vous adopterez face au juge, le ton de votre voix si on vous demande quelque chose, ce que vous direz si l'émotion monte, si elle est trop forte. Jusqu'à même travailler sur votre manière de vous habiller pour être confortable. La visualisation, ce n'est pas une technique de relaxation. C'est un travail neurologique précis. Quand vous avez visualisé une scène avec suffisamment de détails, votre cerveau la traite en partie comme s'il l'avait déjà vécue. De ce fait, le jour de l'audience, vous n'arrivez pas dans l'inconnu. Vous arrivez dans quelque chose que votre système nerveux reconnaît. Et cette reconnaissance, à elle seule, change tout. Elle va vous libérer de l'attention, elle va vous rendre disponible et elle va vous permettre d'être présent au lieu d'être submergé. Voilà pour la première préparation. Et elle peut commencer dès maintenant, 6 mois, 1 an avant l'audience. Plus elle se fait tôt, plus elle est précise, plus elle est puissante. La deuxième préparation, c'est de préparer votre projet de vie en amont pour que l'audience y contribue sans être le déclencheur. Et c'est vraiment ici, à mon sens, que se joue ce qui vous distingue à 2 ans de la personne que vous êtes aujourd'hui. La plupart des personnes attendent que la procédure soit finie pour commencer à réfléchir à la suite. Elles disent, quand ce sera derrière moi, je verrai. Quand le jugement tomberait, je saurai où j'en suis. Quand je récupérerai ma part, je pourrai décider. Et elle passe 18 mois, la moyenne en France est 24 mois, suspendue à cette audience, comme si tout devait s'organiser à partir de ce moment-là. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Vous devez préparer votre projet de vie maintenant, pendant la procédure, pas après, pas à partir de ce que le juge décidera, à partir de ce que vous voulez, vous, pour la suite. Quel logement, dans quel quartier, à quelle distance des enfants? Quel rythme professionnel? Peut-être un changement, peut-être une formation, peut-être un investissement que vous avez reporté depuis 10 ans. Quel lien vous voulez maintenir? Quel lien vous voulez laisser s'éteindre? Quelle place vous voulez redonner à des choses que la vie de couple avait écartées? Pourquoi le faire maintenant et pas après? Ah, pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que votre cerveau a besoin d'autre chose à faire que de tourner autour de la procédure. Pendant que vous travaillez sur votre projet, vous ne travaillez pas sur la rumination. Vous occupez l'espace mental autrement. Et ce simple déplacement, soir après soir, allège la charge. La seconde raison, et c'est la plus importante, si votre projet est déjà construit, l'audience n'est plus le déclencheur de votre nouvelle vie. Elle en devient une étape qui peut contribuer à votre projet ou ne pas y contribuer pleinement, mais elle ne décide pas de tout. Vous arriverez à l'audience avec un cap. Et ce cap, c'est ce qui vous tient debout pendant les minutes les plus dures. Surtout, vous n'attendez plus de cette audience qu'elle vous répare. Parce que vous avez compris entre-temps que la réparation ne viendra pas d'une décision de justice. Elle viendra de ce que vous aurez construit en amont par vous-même. Les personnes qui se repositionnent le mieux 2 ans, 3 ans après cet accident de la vie. Les personnes qui se reconstruisent le mieux après un divorce ou une séparation ne sont pas celles qui ont gagné sur tous les points. Ce sont celles qui avaient déjà commencé à construire la suite avant que la procédure ne se termine. Elles n'ont pas attendu une décision pour exister à nouveau. Elles ont construit en parallèle et ce parallèle a tout changé. Donc voilà pour ces 2 préparations essentielles. Se préparer à l'audience, par exemple par la visualisation, par l'incarnation, par le travail concret du moment lui-même, et préparer votre projet pour que l'audience ne soit plus l'événement qui décide de tout, mais une étape dans une trajectoire qui vous appartient, et surtout qu'elle puisse contribuer à alimenter votre projet de vie d'après. Je retiens 2 phrases de ce que nous venons de partager. La première, la salle d'audience n'est pas la scène que vous croyez. Le juge ne tranche pas la vérité de votre histoire, il tranche un cadre, il n'est pas là pour vous réparer. Préparer le mauvais combat, c'est dépenser une énergie immense pour une réparation qui ne viendra pas et c'est perdre cette énergie pour ce qui suit. La seconde, Il y a deux préparations à mener en parallèle de cette procédure. Vous préparez, vous, à l'audience, incarnez, visualisez, anticipez dans le détail et préparez votre projet de vie maintenant pour que cette audience contribue à votre vie d'après et ne soit pas l'événement qui va tout déclencher et probablement mal déclencher la suite. La réparation que vous attendez ne viendra pas d'une salle d'audience, elle viendra de ce que vous construisez, vous, pour la suite. Si cet épisode vous parle, j'ai conçu un guide gratuit qui détaille les 5 erreurs fréquentes qui transforment une séparation en traumatisme durable. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous propose une séance de diagnostic d'1h30 pour poser avec vous une lecture structurée de votre situation et identifier ce qui peut être préparé dès maintenant. L'audience elle-même et puis ce qui viendra après. Je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain épisode.